L'invité de Pluriel est Nathalie Arthaud, porte-parole de Lutte ouvrière et candidate à l'élection présidentielle de 2017. Bonsoir.
Bonsoir.
Nathalie Arthaud, ce week-end de la Pentecôte, Lutte ouvrière organise sa fête annuelle à Presles, dans le Val d'Oise. Nous en parlerons au cours de cette émission. Mais on commence par l'actualité. Vous dénoncez depuis déjà longtemps la loi travail qui était en discussion jusqu'au début de la semaine à l'Assemblée, alors que de nombreux amendements ont été déposés par les députés. Le gouvernement a finalement décidé de passer en force en utilisant le 49-3. Les syndicats appellent à 2 journées de mobilisation la semaine prochaine. Quelle est votre réaction à l'utilisation du 49-3?
C'est évidemment un coup de force. Bon, il y a eu des dizaines, des centaines de milliers de travailleurs, de jeunes, de moins jeunes, dans la rue pour dénoncer depuis maintenant 2 mois cette loi El Khomri. Le gouvernement n'a pas trouvé de majorité pour la voter. Il dégaine effectivement le 49-3. Écoutez, on peut que se dire une chose. Voilà, elle est belle, leur démocratie. Parce que tous ces gens-là nous expliquent quand même que c'est le peuple qui a le pouvoir, hein, qu'au travers des députés, au travers de l'élection du président de la République, on nous explique que c'est nous qui décidons. Bon, la réalité, c'est que c'est faux. C'est faux du début jusqu'à la fin. Parce que regardez comment, effectivement, on marche sur ce que peuvent faire les députés. Et puis surtout, regardez même la politique que mène Hollande. Hollande a-t-il été élu pour faire cette démolition du Code du travail?
Ça n'était pas effectivement dans son programme.
Je crois.
Mais
je crois,
en effet. Peut-être qu'il a voulu s'adapter à la conjoncture. 2016 n'est pas tout à fait pareil que 2012. Il y a eu notamment la création d'applications pour smartphones comme Uber. Le monde est en train de changer, Nathalie Arthaud.
Vous voyez, nous, Lutte ouvrière, nous n'avons pas appelé à voter Hollande en 2012 et nous n'étions pas de ceux qui en attendaient quoi que ce soit.
Vous n'aviez aucune illusion ?
On n'avait aucune illusion et d'ailleurs j'ai fait ma campagne en 2012 en expliquant que Hollande ferait le programme du MEDEF et que plutôt que de lire ses tracts, il valait mieux aller regarder ce qui se passait du côté du patronat, ce qui était en discussion, parce que on savait, y compris pour avoir vu quand même tous les gouvernements socialistes qui se sont succédés, qu'ils allaient faire la politique du patronat et se conduire en serviteurs zélés du patronat. Donc là-dessus, nous, on ne se sent pas, comment dire, on ne se sent pas trahi, on n'avait pas...
Vous n'êtes pas déçu.
On n'avait pas de confiance, mais ceci dit, on est en colère et on est révolté comme ceux qui justement ont voté pour Hollande et à juste titre, parce que justement c'est du cynisme, c'est une arrogance incroyable, et ils nous expliquent que ils s'adaptent à la situation. Mais quelle blague, franchement.
Mais finalement c'est en 2017 que le peuple tranchera, il y aura des élections, il sera sanctionné peut-être par les électeurs de gauche.
Eh bien moi j'espère que tous ceux qui se sont mobilisés, tous ceux qui regardent ce qui se passe, j'espère qu'ils tireront les leçons, justement, et qu'ils verront qu'il ne s'agit pas d'élection, que justement notre sort ne dépend pas d'élire un tel ou un tel, que toutes ces promesses des politiciens, elles ne valent rien, que tout ça c'est du cinéma, et que changer de gouvernement, c'est simplement changer celui qui va nous qui va fouler les intérêts des travailleurs au pied. C'est ça la réalité. Et vous me dites, parce que j'ai pas répondu à une de vos questions, de vos interpellations, vous me dites mais il s'adapte à la situation. Mais regardez même comment aujourd'hui Hollande nous explique que ça va mieux. Il nous explique que finalement il y a une petite reprise. Alors je reviendrai peut-être là-dessus tout à l'heure, parce que moi je partage pas, je crois que tout ça c'est aussi beaucoup d'enfumage. Mais si ça va mieux, pourquoi faut-il donc détruire des droits pour les travailleurs? Si ça va mieux, pourquoi faut-il encore que les travailleurs soient plus flexibles, que encore ils travaillent plus longtemps, qu'ils soient plus mal payés, etc. Pourquoi? Dites-moi pourquoi. Parce que tout simplement, dans ce système, il n'y a qu'une seule politique qui existe, c'est servir les intérêts d'un patronat qui est basé sur l'exploitation, sur la surexploitation des travailleurs.
le gouvernement veut expliquer que effectivement c'est de la flexi-sécurité, flexibilité, c'est ce que vous dénoncez, mais il y a en même temps des aspects qui protègent, selon le gouvernement, le salarié, notamment le compte personnel d'activité. Est-ce que ça, par exemple, c'était un progrès de cette loi travail ?
Bah, la flexibilité, c'est sûr qu'on la voit bien, hein, c'est évident, hein, c'est l'allongement du temps de travail jusqu'à des semaines de 46 heures, des journées de 12 heures, c'est des heures supplémentaires qui ne seront même pas majorées à 25% puisque la loi veut les descendre, donc la flexibilité, on la voit bien, mais la sécurité, non, on ne la voit pas parce que le CPA, le compte personnel d'activité, c'est du vent, c'est du vent. La réalité, c'est qu'on essaie de réunir des droits qui sont pour l'instant uniquement théoriques, y compris prenez ce droit à la cette reconnaissance de la pénibilité. Même les patrons disent qu'ils ne veulent pas l'appliquer. Hein. Et quand vous regardez, y compris ce qu'il y a dans les textes de loi, c'est une reconnaissance mais symbolique, uniquement symbolique, hein, de la pénibilité. Et regardez même les droits au chômage. On nous dit que ça va réunir tous les droits. Mais regardez comment même les droits au chômage sont attaqués aujourd'hui et que le gouvernement est en train, hein, petit à petit, là, de nous mettre dans la tête qu'on ne va pas pouvoir indemniser les chômeurs comme avant et qu'il va peut-être falloir rogner encore sur les allocations chômage. Alors ce CPA, c'est du vent. Alors bien sûr, le gouvernement, il essaye de nous enfumer, hein, en nous expliquant qu'il a fait des modifications, etc. La réalité, c'est que cette réforme, elle reste une démolition du Code du travail, parce que ça va être l'autorisation pour les patrons de faire ce qu'ils veulent dans leur entreprise, avec ces accords d'entreprise qui pourront déroger aux accords nationaux.
Précisément, c'est ce qu'on appelle l'inversion de la hiérarchie des normes en matière de droit du travail. Ce qui vous inquiète le plus, c'est que les accords d'entreprise pourront primer sur les accords de branche.
Oui, et d'ailleurs, vous savez, même les députés socialistes, hein, s'inquiétaient de ce que, finalement, ça allait mettre en place du dumping social. Parce qu'évidemment, une entreprise qui aura réussi à faire son chantage habituel, hein, à la compétitivité, à la fermeture, à la suppression d'emplois, elle pourra peut-être faire signer effectivement des accords qui seront défavorables pour les travailleurs, comme il y en a eu à Smart en Moselle, mais comme il y en avait eu à Continental, dans bien d'autres entreprises. Et que va-t-il se passer dans l'entreprise concurrente? Eh bien, elle s'en servira de cet accord pour dire qu'il faut aussi que dans leur entreprise, les travailleurs revoient leurs conditions de travail à la baisse. Donc, il va y avoir effectivement une course entre les patrons pour effectivement démolir dans chaque entreprise, au travers de ces fameux accords, qui sont en fait des moyens de pression supplémentaires pour les patrons, hein, de démolir les droits des travailleurs.
Ce que vous êtes en train de dire, Nathalie Arthaud, c'est que tous les Français, au final, sont concernés par cette loi travail ?
Ah, évidemment, et je crois d'ailleurs que tous se sont sentis concernés, parce que regardez les manifestations, les grèves, elles ont touché des petites entreprises, des grandes entreprises, elles ont touché le public, le privé, elles ont touché aussi une fraction de la jeunesse, cette jeunesse qui justement se projette déjà comme futurs travailleurs et qui voit bien que la flexibilité, c'est la condition, mais aujourd'hui, d'une écrasante majorité de jeunes. Moi, je suis consternée et vraiment en colère quand j'entends le patronat expliquer qu'il faut introduire de la flexibilité. Ils ont tout ce qu'ils veulent en termes de flexibilité. Ils peuvent tout faire. Des contrats de quelques heures, d'une semaine, de 15 jours. Ils peuvent même employer des jeunes pas payés avec les stages aujourd'hui. Donc ils peuvent tout faire en termes de flexibilité. Ils en veulent encore plus. Alors quand les jeunes disaient, nous, ça suffit, on ne veut pas de ça, on ne veut pas devenir de la chair à patron, mais ils ont raison, mille fois raison, ces jeunes. Alors vous voyez, il y a cette conscience, justement, que cette loi, elle est effectivement contre l'ensemble du monde du travail, et je crois que l'ensemble du monde du travail, hein, il y a de ce point de vue-là une certaine unanimité pour la dénoncer, pour comprendre que cette loi, elle est contraire à leurs intérêts.
Vous êtes en train de dire que le secteur privé est en train de se mobiliser, pas seulement les fonctionnaires qui, en général, sont les premiers à aller manifester.
Bah, on l'a vu, vous savez, les manifestations, il y en a depuis le 9 mars. Elles ont compté des dizaines, des centaines de milliers de salariés dans la rue. Et on a vu On a vu des salariés du privé, bien sûr. On a vu des grosses délégations de Renault, de Peugeot, des banques, des assurances. On a vu des délégations de la chimie, de l'énergie, du privé, bien sûr. Et on a vu aussi des petites entreprises. Vous savez, pourquoi y avait-il autant de monde dans les manifestations en province, dans des petites villes où ce sont des petites entreprises du privé qui sont présentes? Eh bien, parce qu'il y a eu aussi dans ces entreprises du privé des salariés qui ont fait grève alors que c'est difficile pour eux, alors que c'est quelque chose de compliqué dans ces petites entreprises. Eh bien, ils étaient là pour dire non. C'est une fraction uniquement des travailleurs. C'est pas l'ensemble du monde du travail. Hein. Pour l'instant, c'est une fraction des travailleurs, mais elle s'est levée pour contester. Et ça, je peux vous dire que c'est quelque chose de très important. Et moi, ce que j'espère, c'est que, y compris ce passage en force pour le 49-3, hein, y compris cette attitude-là du gouvernement, de dire ben, « vous pensez ce que vous voulez, moi de toute façon, j'y vais », eh bien j'espère que ça sera considéré comme une nouvelle provocation et comme une raison supplémentaire pour se mobiliser dans les jours et dans les semaines à venir.
Vous souhaitez que le mouvement Nuit Debout rejoigne la protestation syndicale, puisque chacun proteste contre la loi travail, mais vous espérez que tout cela fasse tache d'huile ?
D'abord, Nuit Debout est née de la mobilisation contre la loi El Khomri. C'est dans ce sens-là que ça s'est passé. Hein, elle réunit aujourd'hui effectivement une fraction, d'ailleurs pas la plus défavorisée hein, de la population, une fraction un peu plus favorisée de la population qui s'est mise à contester, y compris pas seulement sur la loi El Khomri, mais sur l'ensemble hein, de l'organisation de la société.
Notamment sur la question des intermittents du spectacle.
Oui, alors il y a eu beaucoup de protestations, d'initiatives qui se sont aussi articulées autour de ces nuits debout. Ben, tout ça, c'est tant mieux. Tout ça, c'est tant mieux parce que ça participe justement de la contestation. Et moi, quand je vois des jeunes, des moins jeunes, remettre en cause la société, se dire que ces inégalités, ce capitalisme, il est au bout du rouleau, eh ben, je m'en félicite. Mais en même temps, je me dis, bah oui, toutes ces discussions-là, hein, réfléchir à l'avenir de la société, il faut aussi que ces discussions-là, elles soient présentes dans le monde du travail. Parce que ce qui sera décisif, ça sera que le monde du travail relève la tête. Ce qui sera décisif pour changer la vie des travailleurs, des chômeurs, des classes populaires, c'est que le monde ouvrier se batte à nouveau, collectivement, de la façon la plus consciente possible. C'est d'inverser le rapport de force avec le patronat. Ça changera la vie, effectivement, des classes populaires.
Vous avez en tête, par exemple, le Front Populaire, puisqu'on a commémoré les 80 ans du Front Populaire?
Bien sûr, j'ai en tête les grandes grèves de mai-juin 1936, où il y a eu une colère qui a été contagieuse. Et qui a pris, vous savez, même les petites entreprises à l'époque, il y avait même les garçons de café qui faisaient grève, les coiffeuses, et y compris les petits commerçants qui étaient sympathisants de cette grève, qui en étaient complètement solidaires. Et cette grève, ces occupations d'usines, cette mobilisation générale, eh bien, elle s'est fait craindre du patronat. Et c'est parce qu'elle a filé la trouille, finalement, hein, au patron, parce qu'elle a filé la trouille aux dirigeants qui étaient élus, qu'elle a réussi à arracher, effectivement, les avancées qu'on connaît, les congés payés, entre autres, mais des augmentations de salaire aussi. Moi, je pense, parce que lors de notre fête, vous avez signalé qu'on avait notre fête effectivement ce week-end, hein, on va parler de mai-juin 36 parce que c'est un anniversaire, c'est les 80 ans de cette grande grève, mais je pense que dans cette période-là, eh bien, les travailleurs auraient pu y compris aller encore plus loin, auraient pu même contester le pouvoir du patronat sur les entreprises, et que ce qui a manqué dans cette période-là, c'est un parti communiste révolutionnaire prêt justement à aller dans ce sens-là, et nous dirons dans cette fête que c'est ça qu'il faut reconstruire, un parti prêt à aller le plus loin possible, s'appuyer sur les luttes des travailleurs pour changer cette société réellement.
Nathalie Arthaud, vous êtes révolutionnaire, vous connaissez bien l'histoire des révolutions, des mobilisations, on vient de l'entendre, la Révolution française, la Commune. Est-ce que vous pensez que cette révolution que vous appelez de vos voeux peut arriver prochainement? Est-ce que les conditions sont réunies comme jamais depuis que vous militez à Lutte ouvrière?
Prochainement, je ne sais pas. Ce que je sais, c'est que le capitalisme est vraiment au bout du rouleau. Et vous savez, dans le mouvement ouvrier, on avait l'habitude de dire c'est le socialisme. où c'est la barbarie. Ben, en fait, la barbarie, on l'a déjà, là, aujourd'hui. On l'a sous nos yeux. Parce que cette crise du capitalisme, c'est pas seulement, elle a des conséquences matérielles que l'on sait, qui ont des aspects barbares déjà. Parce que ça veut dire le sous-développement, la faim, ça veut dire des peuples qui sont voués à la famine, à ne pas pouvoir se soigner. C'est une misère effectivement effroyable. C'est dans les pays riches une exploitation de plus en plus grande, mais c'est aussi une barbarie morale. Regardez comment on traite aujourd'hui ceux qui fuient les bombes en Syrie. Regardez comment on traite aujourd'hui même ceux qui cherchent à tout simplement à vivre, qui essayent d'émigrer parce qu'ils ne peuvent plus vivre dans leur pays, parce qu'ils ne peuvent pas travailler, gagner leur vie dans leur pays. Regardez comment on les traite par cette politique-là, criminelle, honteuse. Donc la barbarie, oui, on l'a. Et c'est la barbarie aussi, d'ailleurs, de bombarder des villes entières. Parce que ça aussi, c'est barbare. Alors on nous explique qu'on bombarde parce qu'il y a des combattants de Daesh, mais il y a aussi des femmes et des hommes dans ces villes, qui sont piégés dans ces villes. Et on les bombarde. Et on les tue également, on les assassine également. Alors voyez, voilà, c'est toute cette barbarie-là du capitalisme qui, moi, je crois, forcément, va réveiller et va donner lieu à des révoltes, à des contestations, va faire qu'il y aura forcément des générations pour combattre ce système. Et moi, j'espère, ils le combattront justement pour le transformer, pour faire la révolution et pour que la société, elle se reconstruise sur des bases conscientes, collectives.
Vous dites, Nathalie Arthaud, que le capitalisme est en bout de course. Est-ce qu'il est en bout de course ou bien est-ce qu'il est en mutation? Parce que on est tous des citoyens, mais on est tous aussi des consommateurs. Et parfois, consommateur veut aller acheter quelque chose le dimanche et puis il oublie d'être le citoyen qui ne pense pas à la caissière qui a perdu son dimanche. Comment le consommateur et le citoyen peuvent finalement se rejoindre?
Mais je ne sais pas, des fois j'ai l'impression qu'on veut réinventer la poudre. Enfin, je ne sais pas. C'est depuis toujours. Depuis toujours, c'est le cas. Bien sûr qu'on est travailleur, on est exploité, et qu'en même temps, on doit se nourrir, qu'on doit, y compris, passer par des marchands de sommeil, par des propriétaires qui encore sont sur notre dos et qui vont encore nous voler une partie de notre salaire. Bien sûr, mais ça a toujours été le cas. Qu'est-ce que vous voulez? Cette société, elle est tenue. Elle est tenue, elle est dominée par cette minorité-là. C'est comme ça que ça se passe. Bon, mais il n'y a rien de nouveau de ce point de vue-là, sous le soleil. Il n'y a rien de nouveau.
Mais dans la prise de conscience, je dirais, des Français.
La prise de conscience, c'est une lutte permanente. C'est une lutte, effectivement, pour être conscient de ses intérêts. Mais vous savez, la division des travailleurs entre salariés, ce n'est pas quelque chose de nouveau non plus. L'existence des chômeurs, ce n'est pas quelque chose de nouveau.
Hein, la criminalisation des chômeurs, entre guillemets, c'est ce que vous êtes en train de dire? On est en train de les désigner du doigt?
On nous dit que le monde du travail s'est affaibli parce qu'il y a beaucoup de chômeurs, mais être, comment dire, les chômeurs, ça a toujours... c'est être chômeur, être au travail, ça fait partie d'une seule et même condition ouvrière.
Le mot assistanat, il vous choque?
Ils ont vécu plus de temps où il y avait un chômage de masse endémique que des périodes de plein emploi. Ça va de pair, effectivement, avec la condition ouvrière. Et moi, mais évidemment, je suis révoltée de voir d'abord qu'on fasse une catégorie à part, et puis qu'on les montre du doigt. Hein. Les chômeurs, ce sont des travailleurs qu'on a privés de leur emploi. Voilà, à qui on a enlevé le droit de gagner leur vie. C'est avant tout, effectivement, une agression dont ils sont victimes. C'est finalement, c'est aussi la conséquence de l'exploitation, parce que ça va de pair. Hein, pour exploiter effectivement davantage les travailleurs, eh bien, il faut qu'il y ait aussi des chômeurs, des gens qu'on prive de leur emploi. Ça fait partie d'une seule et même politique. Et tout ça, c'est pas nouveau. Alors oui, nous sommes de ceux qui disons il faut renouer avec une conscience de classe. Il faut renouer avec ces traditions du mouvement ouvrier qui ont permis aux travailleurs dans le passé de combattre ensemble, collectivement, et effectivement d'avancer. Alors ce combat-là, pour nous, il est vraiment d'actualité.
Il est d'actualité, et vous êtes plutôt optimiste quand vous voyez ces mouvements comme Nuit Debout. Vous sentez que les conditions sont réunies aujourd'hui plus qu'avant?
En tout cas, cette mobilisation contre la loi El Khomri, le fait qu'il y ait eu des dizaines, des centaines de milliers de salariés, c'est un gage d'avenir. Ce n'est qu'une fraction du monde ouvrier. Hein. Ça, il ne faut pas se le cacher. Si c'était l'ensemble du monde ouvrier, il y aurait eu des millions de salariés dans la rue, toute l'économie aurait été bloquée. Je peux vous dire que le projet de loi El Khomri, il aurait été remballé. Hein. Ça, il n'y a pas de problème. Donc aujourd'hui, ce n'est qu'une fraction. Mais il faut commencer par là. Il faut commencer par là. Et c'est une fraction qui veut à nouveau contester, dire ses intérêts, lever justement ce drapeau des luttes. Donc bien sûr que c'est important. Moi, j'espère qu'elle réussira à en entraîner d'autres. Vous savez, déjà, le fait qu'elle prenne la parole, je pense que ça a renforcé la conscience de l'ensemble des travailleurs. Parce que pour une fois, on n'a pas seulement entendu les mensonges des patrons et de ce gouvernement. Pour une fois, on a aussi entendu des travailleurs, des ouvriers, des salariés, des banques dénoncer leurs conditions de travail, dénoncer cette rapacité patronale qui en veut toujours plus et qui les condamne effectivement à la flexibilité. Cette flexibilité, c'est ça. Hein. Pour les travailleurs, la flexibilité, c'est une condamnation. C'est une condamnation à la précarité, à la galère, c'est ça. Et quand on est un salarié... être flexible, ça veut dire qu'est-ce que ça peut vouloir dire d'autre que cette galère, parce que le loyer il est pas flexible, il faut le payer tous les mois, les factures on ne les renégocie pas comme ça parce qu'on a perdu son emploi, c'est pas vrai. L'estomac des enfants, il n'est pas flexible non plus. Donc il y a des nécessités pour les travailleurs, des droits, hein, des nécessités, des besoins. Et moi, je me réjouis effectivement que cette mobilisation, elle les a mises en avant. Donc je pense effectivement que ça a conforté la conscience du monde du travail, et c'est en cela que c'est très important.
Quel regard vous portez sur ce qu'on appelle l'économie du partage du type Uber? On a le sentiment que le capitalisme a muté aujourd'hui, puisque vous avez des multinationales qui contrôlent de grands secteurs via les smartphones.
Mais vous voyez, l'économie du partage, que c'est beau.
La novlangue, c'est la novlangue.
Que c'est beau. Moi, je crois que j'ai entendu dire que même chez Uber, là, maintenant, il y avait des syndicats qui se montaient. Parce qu'en réalité, les chauffeurs d'Uber, ils ont beau être auto-entrepreneurs, n'est-ce pas ? Eh ben, en fait, ils se rendent compte qu'ils sont exploités, voilà, tout simplement. Et l'exploitation, elle passe par plein de, vous savez, par plein de canaux différents. Hein. On peut être exploité parce qu'on est salarié, ça c'est sûr, et à commencer par là, parce que voilà, quand on est, hein, quand on n'a pas de capital, et ben sa seule ressource c'est de vendre sa force de travail, qu'elle soit intellectuelle ou qu'elle soit manuelle. Mais on peut être exploité aussi parce qu'on est un entrepreneur, un petit artisan, un petit commerçant à son compte, et puis qui en réalité dépend des gros. D'abord qui dépend de sa banque, hein, parce que ça commence par là. D'abord, c'est la banque qui fournit les capitaux, donc il faut rembourser avec intérêt. Donc voilà. Alors en réalité, hein, l'économie du partage, tout ça c'est de la blague. On est dans une économie basée sur l'exploitation, où il y a ceux qui possèdent les capitaux dominent par plein de voies différentes, et il ne faut pas se laisser avoir par ce genre de vocabulaire. Voilà. Parce que vous savez, même les salariés, regardez, on ne parle même plus d'ouvriers maintenant, hein, on parle de collaborateurs. Collaborateur. Comme si l'ouvrier intérimaire qui est surexploité, à qui on ne paye pas ses heures sup, qui ne donne même pas les outils de travail qu'il faut, était le collaborateur du patron. Tout ça, c'est
vraiment. Est-ce que ça vous inquiète, le passage du salariat au statut d'auto-entrepreneur? Parce que si on prend l'exemple des chauffeurs d'Uber, ils travaillent parfois 6 jours sur 7, leurs horaires de travail peuvent aller jusqu'à 10 heures, 12 heures par jour, et puis ça va quand on a 30 ans, mais effectivement quand on commence à vieillir, il n'y a pas forcément de protection quand on est auto-entrepreneur. Est-ce que c'est inquiétant, ça ?
Bah, justement, c'est effectivement un moyen aujourd'hui pour la bourgeoisie, hein, qui domine là, Uber, et de trouver effectivement des salariés à bon compte. Voilà, effectivement, avec aucun droit, c'est un moyen pour eux, alors là, de contourner complètement le droit du travail, puisque justement, ce n'est plus une relation salariée, hein, puisque c'est le droit du commerce qui justement rentrera en vigueur dans cette maintenant le problème effectivement c'est que ces travailleurs, hein, qui sont auto-entrepreneurs, ils aient cette conscience là que finalement c'est une façon de revenir au travail à la tâche, hein,
les journaliers
du 19e siècle, effectivement, aux journaliers, aux paysans journaliers qui allaient se faire embaucher jour après jour sans être assurés de rien. Donc moi, tout ce que je souhaite, c'est que justement ces travailleurs, qui sont des travailleurs, eh bien, ils comprennent que finalement leur combat, il est lié à celui des travailleurs salariés, celui de la classe ouvrière, du camp des travailleurs, et que ils sauront finalement combattre avec eux.
Les employés de grands groupes comme Amazon, Google, et puis ces auto-entrepreneurs, c'est eux aujourd'hui les nouveaux prolétaires ?
Ben, c'est des prolétaires qui se rajoutent aux autres, parce que bon, je sais pas, on parle de ceux qui travaillent chez Google, chez Amazon, comme si ça pouvait nous faire rêver. Mais franchement, il suffit de regarder les conditions de travail dans ces espèces de gros entrepôts d'Amazon, ces plateformes téléphoniques, etc., pour comprendre que c'est... Et en même temps, il y a des ouvriers, et ils sont aussi nombreux d'ailleurs que dans l'après-guerre, 7,5 millions d'ouvriers qui font tout tourner, qui fabriquent tout. Alors, on a l'habitude de passer dessus, de dire, voilà, les ouvriers, ça n'existe plus, mais sans les ouvriers, sans les employés, sans les petites mains de l'économie, ceux qui sont les plus exploités, rien ne serait fabriqué. Alors, et laisser croire que tout ça, c'est un monde qui a disparu. Hein, c'est une façon, c'est, encore une fois, c'est de l'escroquerie politique, justement, pour que les travailleurs eux-mêmes ne se rendent pas compte de leur propre force. Mais nous sommes une force, nous tous, les travailleurs, les ouvriers, les employés, les fonctionnaires aussi, qui font partie du même monde.
Mais vous n'êtes pas contre cette nouvelle économie, c'est-à-dire que des applications puissent exister pour qu'il y ait des nouvelles formes de
taxis.
Mais
ce n'est pas une nouvelle économie. C'est la même économie, la vieille économie, ce capitalisme qui cherche effectivement à vendre sa camelote de façon différente. Mais c'est la même économie, les mêmes classes sociales en réalité, le même combat qu'il y a à mener.